une émission proposée par Michel Niaille.
Chers amis, bonjour. Nous allons continuer notre étude des différentes institutions qui, avant la loi de 1905, ont été laïcisées. Nous avons vu la dernière fois, sans respecter l'ordre chronologique exact, la loi de 1884 sur les cimetières et comment on avait, par la laïcisation des cimetières, revu complètement la manière dont était assumé le rôle de la société dans le soin que l'on porte à ses morts. Je voudrais aussi aujourd'hui prendre un autre exemple antérieur à la loi de 1905, et la fois prochaine également, et qui a marqué, qui continue à marquer notre société, qui est justement la laïcisation de l'école. Alors, premier point, sans être trop long sur cette question, l'école pose dans notre société occidentale une énorme question, et ceci depuis des siècles. Est-ce que l'enfant appartient à la famille ou est-ce qu'il appartient à la société ? Et il y a donc deux manières de résoudre le problème de l'instruction ou de l'éducation. Soit on pense qu'elle relève de cercle parental, donc de la famille, d'un cercle privé, avec tout ce qui va avec. Soit on considère que les enfants sont des futurs citoyens et que l'école et l'instruction relèvent du collectif et notamment de l'État. Alors évidemment, pendant des siècles, et on peut dire jusqu'à la Révolution française, il apparaît évident que l'enfant appartient à sa famille et à l'institution qui protège la famille, c'est-à-dire l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église est supposée transmettre les croyances, les valeurs, les comportements qui sont nécessaires pour assumer une participation au christianisme catholique. Et donc, c'est l'Église qui d'ailleurs va créer les premières écoles. Les premières écoles sont des écoles auprès des monastères, parce que les moines savent lire et écrire. Puis ce seront des écoles épiscopales, donc autour de la cathédrale, parce que l'évêque est entouré de gens qui savent, qui sont des chanoines et qui savent lire et écrire et qui peuvent enseigner. Et finalement, des monastères aux écoles épiscopales, on passe un peu plus tard aux universités, qui, ne faut pas l'oublier, sont des institutions créées par le pape. Je vous rappelle que, par exemple, la faculté de droit et la faculté de médecine sont créées à l'intérieur d'une même structure, qui est l'Universitas, et la bulle du pape qui, en 1289, crée cette université, commence par ces mots « Quia sapientia illuminat nos ». Parce que la sagesse nous illumine, nous, c'est le pape et l'Église. Et donc, l'université est donc une structure ecclésiastique qui, jusqu'à la Révolution, dépend du clergé. Pourtant, parallèlement, à partir du XVIe siècle et du XVIIe, on voit apparaître des ordres d'enseignement, des ordres cléricaux. Je pense évidemment aux jésuites, qui eux se spécialisent dans la formation des fils de la noblesse et de la bonne bourgeoisie, et qui prépare ainsi la direction de la société de demain. Et puis plus tard, au 19e notamment, une sorte de démocratisation avec les frères des écoles chrétiennes, plus les écoles pour les jeunes filles, sous l'égide des bonnes sœurs. On le disait autrefois, l'école des bonnes sœurs. Autrement dit, jusqu'à la Révolution française et même après, l'Église apparaît comme la succession naturelle de la famille et donc chargée de l'enseignement. C'est la Révolution, ce qui ne vous étonnera pas, qui va complètement transformer la vision que l'on a de l'école. En effet, apparaît cette idée que l'école est une institution de la nation et que cette institution de la nation est chargée de former des futurs citoyens. Si vous lisez, par exemple, le contrat social de Rousseau, vous voyez comment l'école apparaît comme un des éléments essentiels de l'organisation de l'État ou de la République pour former les futurs citoyens. Et le grand rapport qui est fait vers 1793-94 de Condorcet porte justement sur un projet d'établissement de l'école de la Révolution, qui est une école républicaine, c'est-à-dire qui va enseigner les arts et métiers, pas simplement le savoir abstrait, mais aussi le savoir mis en œuvre concrètement, qui va enseigner les valeurs républicaines et qui va enseigner aussi bien aux enfants qu'aux adultes, puisqu'il est prévu que tous les dimanches, les écoles ouvriront pour que les adultes puissent aller se former ou améliorer leur formation. Et là, il y a une véritable rupture parce que la République entre directement en concurrence avec l'Église. L'Église ne va pas se laisser faire et elle va se défendre pendant tout le XIXe siècle, dans le siècle qui suit la Révolution, pour reprendre, j'allais dire, sa part de marché. Entre-temps, juste après la Révolution, Napoléon sait très bien comment on peut utiliser l'Église, donc il laisse à l'Église, en effet, l'enseignement primaire, mais pour l'enseignement secondaire de niveau élevé, ce que vont devenir les lycées, là, il s'agit d'un enseignement d'État et les lycées sont sous l'autorité du grand maître de l'université, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un ministre de l'Éducation. Et quant aux universités, c'est terminé, ce n'est plus une affaire de l'Église. Les universités sont refondées par Napoléon comme une organisation étatique et elles ont d'ailleurs le monopole, jusqu'à aujourd'hui compris, de la collation des grades. Vous ne pouvez pas avoir le titre de bachelier, de licencié ou de maître et de docteur sans être passé par l'université. Aucune organisation privée ne peut délivrer ces diplômes. Voilà ce qui, dans l'après-révolution, a complètement changé la donne et ouvert un problème, voire une crise, entre l'Église qui continue à réclamer son magistère sur l'école et l'État, évidemment avec la forme républicaine, qui affirme au contraire ses droits.
C'était un bonhomme bleu, bleu marine, des orteils jusqu'aux cheveux, tu imagines. Il surveillait l'horizon, il dorlotait les poissons, il tutoyait les bateaux, et même s'il se levait tôt, il chantait à plein poumon une drôle de chanson. Tu ne jettes pas ta poubelle dans l'eau de ton bain, tu ne fais pas la vaisselle dans la soupière des voisins. Et la mère qui est si belle, garde-la, garde-la bien, garde-la, garde-la bien. Quand dans sa barbe il chantait sur la plage, tous les enfants le suivaient, grand tapage. Il ramassait les mégots, les plastiques au bord de l'eau. Il brûlait les vieux papiers et les enfants venaient l'aider, chantant tous à l'unisson cette drôle de chanson. Tu ne jettes pas ta poubelle dans l'eau de ton bain, tu ne fais pas la vaisselle dans la soupière des voisins. Et la mère qui est si belle, garde-la, garde-la bien, garde-la, garde-la bien.
Alors que va-t-il maintenant se passer au XIXe siècle ? Bien, au XIXe siècle, la responsabilité de l'État va devenir de plus en plus importante et on a au moins deux lois dont il faut garder la mémoire. En 1833, la loi Guizot, encore un bon protestant réformé évangélique, qui réorganise l'enseignement primaire, c'est-à-dire qui prévoit que dans chaque département et dans chaque commune, il doit y avoir une école primaire et évidemment concurrencée quelquefois par c'est autorisé un enseignement privé catholique. Mais même dans cet enseignement privé catholique, l'enseignement du catéchisme reste facultatif. Donc, la loi Guizot implique que désormais, dans chaque département, il y a un enseignement public sous l'autorité de l'État. Quelques années plus tard, pratiquement 20 ans plus tard, la loi Falloux, sous la Deuxième République, redonne à l'Église une autorité qu'elle avait perdue. Et on comprend que l'Église catholique, pendant tout le cours du XIXe siècle, tente de rattraper le temps perdu depuis la Révolution. Et la loi Falloux remet l'école primaire et secondaire sous l'autorité de l'Église catholique. Désormais, l'évêque siège de droit dans les conseils académiques. Et on voit que la situation, lorsque la République s'établit, enfin avec la troisième, en 1880 réellement, on voit que la République va avoir à se poser la question de prendre l'éducation et l'instruction au sérieux si elle veut pouvoir se pérenniser. Parce que les républicains comprennent bien que s'il n'y a pas de nouvelle génération formée de manière républicaine, la République sera perdue. Alors, c'est le moment d'ailleurs, après 1870, où apparaît le mot « laïcité ». Il est employé pour la première fois par Ferdinand Buisson, encore un protestant, certes, qui a pris ses distances par rapport à l'Église protestante, mais qui est un auteur remarqué et toujours valable d'un dictionnaire pédagogique et qui fait apparaître le mot laïcité en disant « oh, c'est un mot nouveau, c'est un néologisme que j'ai créé ou que nous avons créé, et puis il faudra s'y habituer ». Et c'est ainsi qu'est né le mot laïcité comme un mot savant, pas du tout issu du langage populaire, et qui désigne un enseignement hors de toute autorité religieuse. Et c'est là qu'à partir de 1880 vont s'égrener toutes les lois sur l'enseignement. Entre 1881, 83, 84, 86, les lois qu'on appelle les lois Jules Ferry, mais il n'y a pas que la loi Jules Ferry, c'est celle de 1881, il y a en 1886 la loi Goblet, je vous dirai pourquoi. Cette loi de Jules Ferry, donc les lois de 1881 et suivantes, créent, non pas comme on le croit, l'école publique obligatoire, mais l'instruction obligatoire. C'est-à-dire que tout petit Français est obligé, et c'est ses parents qui sont responsables, d'être instruits. Maintenant, libre aux parents à envoyer cet enfant, s'ils ne veulent pas assumer eux-mêmes l'instruction, dans une école publique ou dans une école privée. Donc, c'est un régime extrêmement libéral, puisque la porte n'est pas du tout fermée à un enseignement de type religieux, on pourrait dire, ou sous l'autorité d'une religion. Mais ce qui est nouveau, c'est que, évidemment, cet enseignement religieux, il est payant, c'est que l'enseignement, lorsqu'il est délivré, l'instruction, hein, lorsqu'elle est délivrée par l'État, par la République, il est non simplement obligatoire primaire, mais il est gratuit et il est public. Et donc, on a retenu ça, hein, que l'école de la République s'impose, ce qui n'est pas faux, puisque les parents ont intérêt à envoyer leurs enfants dans une école qui est publique et gratuite. Ce qui veut dire que dans cet enseignement désormais organisé par l'État, par la République, disparaît complètement, alors pas tout à fait au début, la présence religieuse. En effet, au début, on n'a pas d'instituteurs. Il faudra créer un corps d'instituteurs et d'institutrices. Et au début, c'est le curé du village qui va être employé par la mairie pour assurer les enseignements dans l'école de la République. Bon, évidemment, il en profitera certainement pour faire quelques Notre Père et quelques Ave Maria. Mais petit à petit, cette situation sera transformée puisque le corps des instituteurs, les fameux hussards noirs de la République, l'expression est de Charles Péguy, va remplacer tout corps religieux et même la loi de 1886, ce qui montre qu'en 5 ans, on a évolué, la loi Goblet déclare que dans l'enseignement public, il ne peut pas y avoir d'enseignants religieux. Autrement dit, exclusion des curés et des bonnes sœurs dans l'enseignement public. En revanche, rien n'est dit sur les collèges et les lycées. Ce qui fait qu'il y a une sorte de tolérance depuis cette époque-là pour qu'éventuellement un enseignant puisse être, si on respecte les textes, un curé ou un ecclésiastique. Il faut en réalité attendre un arrêt du Conseil d'État qui déclare que le ministre ayant refusé à un candidat à l'agrégation de philosophie de se présenter parce qu'il était prêtre, en disant « vous ne pouvez pas en tant que prêtre avoir un enseignement laïque, c'est-à-dire indépendant de toute religion », le pli a été pris et depuis cet arrêt du début du XXe siècle, il n'y a pas place dans les lycées et dans les collèges à un enseignant qui serait religieux. En revanche, dans l'enseignement supérieur, dans les universités, on peut tout à fait nommer comme professeur un curé, un pasteur, un rabbin, etc. Ces lois sur l'enseignement public vont ouvrir évidemment une grande querelle que tout le monde connaît, qui est la guerre scolaire. Puisque désormais, il y aura en France 2 structures, une structure qui est majoritaire et largement, qui est la structure publique, dans le primaire comme dans le secondaire, évidemment le supérieur, qui est la structure gouvernée par les lois de la République, des agents de la République, et à partir de 1905, cette école publique sera le premier élément significatif de la reproduction des élites républicaines. Mais dès 1881-82-86, Jules Ferry va s'attacher à républicaniser cette école bien avant la loi de 1905, puisque on va faire en sorte que les locaux dans lesquels l'enseignement sera donné seront publics, c'est-à-dire on enlève les crucifix et les statues de la Sainte Vierge, que les programmes seront publics et laïques, donc on enlève toute référence à la divinité. Et enfin, je viens de le dire, le corps enseignant sera public et donc laïque, et on exclut les ecclésiastiques de ces enseignements. Donc, on voit bien que dès la fin du 19e, et ça sera redoublé avec le début du 20e siècle, lorsque le corps des instituteurs et des institutrices sera largement constitué, il y a une organisation qui fait que l'éducation, si elle reste évidemment entre les mains des parents, à la maison et dans les activités privées, est pour l'essentiel assurée pendant des heures chaque jour par la République et un corps professoral qui est laïque. Évidemment, l'école privée, notamment catholique, puisque l'école privée protestante va disparaître, il y avait beaucoup d'écoles protestantes, mais qui au fur et à mesure vont être données ou cédées à la République, notamment aux collectivités locales, l'école privée catholique va rester un élément concurrentiel, certes minoritaire par rapport à l'école de la République, mais le fer est dans la plaie et va continuer à créer des tensions, notamment au cours du XXe siècle. Alors, au XXe siècle, je vais en terminer par là, évidemment, dans ce troisième temps de mon propos, au XXe siècle, la grande affaire, c'est l'application de la loi de 1905. Et on voit bien comment l'école catholique peut devenir une espèce de refuge pour maintenir la pression dans une formation qui est souvent très traditionnaliste, pour ne pas dire réactionnaire, dans les institutions privées où on apprend à se défier d'une certaine manière d'un État qu'on pense comme trop autoritaire. Le régime de Vichy va accentuer les choses puisqu'il va essayer de détricoter ce que la République avait fait. Il l'a fait de manière générale à l'égard de la République et il va à nouveau favoriser le clergé catholique dans la supervision de l'enseignement primaire et secondaire. Ce qui fait que, à la fin de la guerre, donc après 1945, se repose la question de refonder d'une certaine manière l'école publique comme républicaine, laïque et ouverte à tous. On a de remarquables enseignants qui déjà, sous le Front populaire, s'étaient manifestés. Je pense à Jean Zé, encore un protestant, qui va ouvrir l'école à des nouvelles pédagogies. Et puis, après la guerre, il y a des plans avec Paul Bert et puis d'autres grands républicains qui vont redonner à l'école publique le sens premier qu'elle avait de former les enfants de la nation. Mais reste toujours l'épine dans notre pied de l'école catholique. Eh bien, après quelques petites tentatives sous la Quatrième République, notamment la loi Marie, André Marie, qui permet de donner des subventions dans certaines conditions, c'est la loi Debré en 1959, donc au tout début de la Cinquième République, qui va régler la question. On le pensait temporairement, mais c'est toujours applicable, vous le voyez, de longues décennies plus tard. Qu'est-ce que fait la loi de Bray? Elle permet à la République de faire un contrat école par école, et non pas, comme on le croit, avec l'enseignement catholique, qui n'existe que dans la bouche de l'Église catholique. La République ne connaît pas l'enseignement catholique, elle connaît des écoles catholiques. Et donc, école par école, il y a le choix de trois situations. Un, je reste une école catholique, je ne demande rien à personne et je me débrouille. C'est évidemment très vertueux, mais assez rare. Deux, j'accepte un contrat minimal qui m'oblige à un certain nombre de suggestions, mais en revanche, je reçois des subventions. Et puis trois, je suis dans un contrat qui est encore plus intégratif, c'est-à-dire que non simplement je respecte les programmes, les diplômes des maîtres, les examens qui se passent dans les institutions publiques, mais je suis presque de la même nature qu'une école publique, sauf que il y a des cours de religion. Et c'est ce troisième contrat qui est évidemment le plus répandu. Ce faisant, la loi de Bray stabilise d'une certaine manière une reconnaissance d'un deuxième ordre d'enseignement dans notre République, qui est l'enseignement catholique. Alors, évidemment, les laïcs vont s'insurger contre la loi de Bray, et on va voir dans les deux années qui suivent de nombreuses manifestations qui ont donné naissance notamment à ce qu'on a appelé le serment de Vincennes, qui est un grand rassemblement de toutes les forces laïques de tous les départements qui se réunissent à Paris, mais comme ils sont très nombreux, le gouvernement a un peu peur et donc on les oblige à aller dans le parc de Vincennes. Et là, ils font le serment de ne pas se séparer avant d'avoir un jour rétabli l'autorité de l'école publique en décidant que l'argent public doit aller à l'école publique et que les écoles privées, qui ont tout à fait le droit d'exister, doivent elles-mêmes trouver les financements pour exister. Donc, à école publique, à école privée, argent privé. Ce serment de Vincennes, il est toujours d'actualité, puisque la loi de Bray n'a jamais été abrogée. Et il y a eu un petit espoir, quelques longues années plus tard, en 1984, vous ne l'avez pas oublié, lors du premier septennat de François Mitterrand. En effet, dans le projet des 101 propositions de François Mitterrand, il y avait la création d'un grand service public national de l'école qui aurait intégré désormais l'école des catholiques, l'école catholique dans l'école publique. Ce qu'on appelait le SPULEN, le service public unifié de l'éducation nationale. Et ce SPULEN apporte, disons, aux laïcs et notamment aux enseignants l'espoir qu'on va en terminer avec cette ségrégation sociale. Les négociations ont été extrêmement difficiles et finalement, alors qu'un accord pouvait être trouvé parce qu'une partie de l'épiscopat était finalement favorable à cette intégration, qu'une partie des laïcs aussi était prêt à donner, lâcher un peu du lest, mais pour assurer ce SPULEN, les parties les plus raides et du côté de l'épiscopat et du côté des laïcs, qu'on a appelé un peu les laïcats, a fait échouer le projet. De sorte que vous en souvenez, devant la menace que la grande manifestation à Versailles, avec en tête Jacques Chirac, faisait peser sur les équilibres politiques, voire même des désordres dans la République, François Mitterrand, dans une allocution dramatique, dit qu'il retire le projet du service public unifié. Le ministre, évidemment, de l'Éducation, c'est M. Savary, va démissionner et il en mourra de chagrin quelques années plus tard, puisque c'était son grand projet et qu'il avait été, avant Mitterrand, un des candidats possibles à la tête de la République. Donc, la guerre scolaire se termine d'une certaine manière ou reprend, puisque l'échec du service public unifié remet les compteurs à zéro avec le maintien d'un service public républicain de l'État majoritaire et le maintien d'une école catholique privée qui désormais reçoit des subsides de l'État. Alors, pour conclure, où en est-on aujourd'hui? Bien, il faut savoir que les trois quarts des élèves sont scolarisés dans l'enseignement public, mais qu'un quart est scolarisé dans l'enseignement privé essentiellement catholique, avec une petite fraction maintenant d'enseignement israélite, hein, des écoles juives, et puis une petite fraction aussi d'enseignement musulman. qui grandit d'ailleurs au fur et à mesure. Donc, un déséquilibre dont vous pourriez dire finalement les trois quarts des élèves sont scolarisés dans le public. Mais ça cache une autre réalité, c'est qu'il y a à travers cette division une division sociale. En réalité, les familles les plus aisées, qui peuvent payer, envoient leurs enfants souvent dans les écoles catholiques. Et on voit donc que l'enseignement catholique n'est pas simplement un enseignement confessionnel. Il est aussi un enseignement significatif par la société qui se retrouve, par la formation d'élites ou de petites élites, comme l'étaient autrefois les collèges jésuites. Et c'est très important de voir que l'école publique, elle prend tout ce qui rentre, tout ce qui vient, et qu'on voit bien qu'il y a là une ségrégation sociale. Et ça, c'est dramatique pour l'unité de la nation. Alors, il y a évidemment un mouvement de yo-yo. On connaît beaucoup de parents qui, pour des raisons de facilité, envoient leurs enfants à l'école publique, puis vont déménager. Il y a une école catholique plus près, on les envoie à l'école catholique, puis on va revenir à l'école publique. Quelquefois, l'enfant ne réussit pas dans le cadre public, alors on l'envoie à l'école chez les curés, comme on disait autrefois. Là, on va reprendre un petit peu la mesure de ce qu'il est capable de faire. Et puis, quand il sera à nouveau à niveau, on va le renvoyer dans l'école publique. Donc, on voit bien qu'il y a un jeu social à propos de l'enseignement qui est un jeu ségrégatif. Et les dernières enquêtes, notamment une menée par un mouvement laïque auquel la Ligue de l'enseignement appartient, a très clairement montré que la ségrégation sociale était de plus en plus nette et que cela était dangereux pour l'unité de la nation. Il y a un vrai séparatisme dont on ne parle pas, un séparatisme silencieux qui permet aux familles fortunées, ou même si elles ne sont pas fortunées, les familles, vous l'avez entendu, qui ne veulent pas que leurs enfants soient avec des Arabes dans la même classe. Et donc, qui là sont rassurés parce que dans l'école catholique, il y a quand même moins d'Arabes que dans l'école publique. Et donc là, il y a un vrai danger. Et donc, on voit que au-delà d'un problème idéologique dont on avait hérité depuis la Révolution, l'école de la nation ou l'école de l'Église, l'école pour tous ou l'école pour quelques-uns, à la place de ce problème fortement idéologique, il y a maintenant un vrai problème politique. Et c'est aux politiques à le trancher qui, évidemment, tarde beaucoup, en tout cas, à trouver une autre solution. La seule solution qui, en mon sens, serait valable, ce serait de redonner à l'enseignement de la République la place centrale qu'elle doit avoir et donc à réserver les financements scolaires à l'école publique en disant que les écoles privées ont tout à fait le droit d'exister, mais elles doivent alors pourvoir à leurs besoins. Merci, à bientôt.
Laïcos, une émission proposée par Michel Niaille.